Vous écoutez, on lit pour vous.
Astuces pour une vie plus écolo avec votre animal de compagnie. Un texte commandité, paru le 22 avril 2024 dans La Presse. Vous adorez les animaux et vous avez le souci de l'environnement? Voici 6 petits trucs faciles à intégrer à votre routine pour diminuer l'empreinte environnementale de votre chien ou de votre chat. 1. Initiez-vous à la litière en vrac. Bon nombre d'animaleries et de boutiques spécialisées offrent désormais un service d'achat en vrac pour les animaux. La litière pour chats constitue une façon toute simple de vous initier à ce mode de consommation. C'est une belle occasion non seulement d'éliminer les emballages superflus, mais aussi de basculer vers des solutions de rechange plus écologiques. Parmi les matériaux naturellement biodégradables qui sont à choisir en priorité pour la litière, il y a le papier recyclé, les copeaux de bois, les graines de gazon et les grains de maïs. 2. Retournez les emballages aux fabricants. Certains fabricants de croquettes, dont Royal Canin, proposent le recyclage des sacs d'emballage par le biais de l'organisme TerraCycle. C'est là une manière de recycler efficacement les déchets plastiques liés aux animaux de compagnie. Au total, il existe une 60aine de points de chute partout au Québec. 3. Optez pour une alimentation saine et locale. L'alimentation de votre animal est, hélas, associée à une forte empreinte environnementale en raison, notamment, de la production de protéines animales, de la transformation de la nourriture, de l'emballage de cette dernière et du transport. Ainsi, pour les gâteries comme pour les croquettes, privilégiez les aliments locaux, naturels et frais, voire crus. Cela contribue non seulement à diminuer les conséquences néfastes de la production d'aliments transformés, mais également à réduire les émissions liées au transport, tout en encourageant les commerçants du coin. Toutefois, avant de modifier la diète de Rex ou de Félix, il est essentiel d'en discuter avec votre vétérinaire. L'estomac fragile de votre animal de compagnie vous en saura gré. 4. Privilégiez les accessoires de seconde main et les jouets durables. Il est préférable de vous équiper d'accessoires, de vêtements et de jouets qui sont durables plutôt que jetables, ainsi que de faire preuve de créativité avec ce que vous avez sous la main. Vous pourriez, entre autres exemples, vous procurer des bottes robustes au lieu de membranes jetables pour protéger les pattes de votre chien l'hiver. Ou encore, fabriquer un grattoir en carton pour les griffes de votre chat. Au besoin, élargissez votre recherche aux boutiques de seconde main, aux brocantes et aux plateformes de revente en ligne. Il y a fort à parier que vous y ferez de belles trouvailles à petit prix. 5. Choisissez des sacs compostables. Si votre municipalité le permet, troquez les sacs dits « dégradables » contre les sacs compostables, véritablement biodégradables, lorsque vient le temps de ramasser les déjections de votre chien ou de votre chat. Un geste tout simple qui peut agir concrètement en faveur de la protection de l'environnement. 6. Faites don des objets inutilisés à des organismes spécialisés. Lorsque vient le moment de vous départir d'objets qui ne servent plus, pensez à faire don de ces articles au refuge pour animaux du coin, plutôt qu'à les jeter. Cela permet, d'une part, de prolonger leur durée de vie utile et, d'autre part, de soutenir les organismes qui viennent en aide aux animaux dans le besoin. C'était Astuces pour une vie plus écolo avec votre animal de compagnie. Un texte commandité, paru le 22 avril 2024 dans La Presse.
d'éviter la rue aux jeunes de la DPJ. Un texte de Nathalie Collard, paru le 15 décembre 2024 dans la presse. Dans le but de leur éviter de se retrouver à la rue, Québec annonce ce dimanche une série de mesures qui visent à mieux accompagner les jeunes à leur sortie d'un placement de la DPJ. On le sait, un jeune sur trois qui sort d'un tel placement risque de connaître une période d'itinérance dans les trois années qui suivent sa sortie, selon l'étude sur le devenir des jeunes placés, EDJEP. Il faut des ponts de services plus directs, plaidait Martin Goyette, co-titulaire de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, CRJ, en entrevue à la presse en novembre 2024. C'est ce que Lionel Carman et Chantal Rouleau, respectivement ministres responsables des services sociaux et de la solidarité sociale, souhaitent accomplir. Créer un filet de sécurité autour des jeunes vulnérables. À commencer par les aider dans leur quête d'un logement. Tous les jeunes des centres de jeunesse qu'on identifie à risque d'itinérance auront accès au programme de supplément au logement, PSL, qui couvre 75 % du prix du loyer, annonce Lionel Carman. La ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a allégé certains critères du PSL afin que les offices municipaux d'habitation absorbent jusqu'à 20 000 $ par appartement en cas de dommage, et ce sans que le propriétaire doive passer par le tribunal administratif du logement. Dans un contexte de pénurie de logements, c'est une mesure qui peut faire une différence auprès des propriétaires, croit le ministre Carman. Ce dernier accordera un financement supplémentaire aux Auberges du Cœur, un regroupement de ressources en prévention de l'itinérance, afin que des intervenants accompagnent les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans. L'organisme Dans la rue fera également partie de la solution, tout comme le comité itinérance de l'Union des municipalités du Québec, présidé par le maire de Québec, Bruno Marchand. Pourquoi confier cet accompagnement au milieu communautaire plutôt qu'à la DPJ? À leur sortie, les jeunes ont tendance à vouloir se distancier des institutions, souligne le ministre Carman en entrevue. Il estime que le contact sera plus aisé avec les intervenants du communautaire qui ont déjà une expertise en accompagnement. L'intention de Lionel Carman et de Chantal Rouleau est claire. En itinérance, il faut cesser de travailler en silo. On l'a vu dans les expériences de Val-d'Or et de Saint-Jérôme. Quand les intervenants sont assis autour d'une même table, ça donne de meilleurs résultats. Des tables régionales seront donc créées auxquelles siégeront les offices municipaux d'habitation et la DPJ. Objectif : s'assurer que les jeunes ne tombent pas dans les cracks. De son côté, la ministre Rouleau, qui vient de moderniser le système d'assistance sociale avec l'adoption de la loi 71, dévoile de nouvelles dispositions qui visent à aider les jeunes dans leur retour à la vie normale. Parmi ces nouveautés, l'accès à l'aide de dernier recours pour les jeunes de moins de 18 ans, l'abolition de la contribution parentale pour les jeunes qui n'habitent plus chez leurs parents. Auparavant, ces jeunes devaient obtenir une signature de leurs parents pour prouver qu'ils ne bénéficiaient pas de leur soutien financier, une obligation qui pouvait créer des situations critiques, au dire des deux ministres. La contrainte à l'emploi est remplacée par la contrainte de santé sévère, soit la santé physique, mentale ou des enjeux psychosociaux, poursuit Chantal Rouleau en entrevue. Le diagnostic pourra être fait par différents professionnels de la santé, travailleurs sociaux, psychologues, etc., et non plus exclusivement par un médecin. Bonne nouvelle, cette contrainte n'empêchera pas un jeune de participer à un programme d'introduction à l'emploi ou de participation sociale, un nouveau programme qui reconnaît enfin le bénévolat. Ces participations permettent de bonifier le montant de l'aide sociale. La limite des revenus d'emploi est également ajustée à la hausse. Les deux ministres insistent. Cette nouvelle approche qui mise sur le décloisonnement n'aurait pas été possible sans le travail du comité interministériel sur l'itinérance créé dans la foulée du sommet de l'Union des municipalités du Québec en septembre 2023. Ça m'avait frappé de voir les courbes qui montraient qu'on avait beau créer des places en refuge, le nombre de personnes en situation d'itinérance continuait d'augmenter. C'est la prévention qui permet de renverser la tendance, souligne le ministre Lionel Carman. Ce comité interministériel, qui se réunit tous les deux mois pour faire avancer des dossiers complexes en itinérance, est formé des ministres des Finances, de la Sécurité publique, des Affaires municipales, de l'Habitation, des Aînés, de la Condition féminine, ainsi que du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits. Il est entre autres à l'origine de nouvelles mesures visant à mieux accompagner les détenus afin qu'ils ne se retrouvent pas dans la rue à leur sortie du milieu carcéral. Est-ce que toutes ces mesures vont éliminer l'itinérance? Non. Mais quand on additionne toutes les initiatives présentées dans ce dossier, on doit reconnaître que le vent tourne au Québec et que la lutte contre l'itinérance est véritablement en train de devenir une priorité. C'était « Éviter la rue aux jeunes de la DPJ », un texte de Nathalie Collard, paru le 15 décembre 2024 dans La Presse.
La Cour supérieure rejette une demande d'exemption à des contenus reliés à l'identité de genre. Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 12 décembre 2024 dans Le Devoir. Un père de famille qui souhaitait exempter sa fille de certains contenus en éducation à la sexualité dans une école primaire de Montréal en invoquant ses croyances religieuses a vu son recours être jugé irrecevable par la Cour supérieure du Québec, notamment parce qu'il a été entamé dans un délai déraisonnable. Le juge a ainsi refusé de se pencher sur les questions profondes que soulève ce dossier à propos des limites aux droits et libertés de la personne dans une société laïque. Est-ce que le demandeur est justifié de demander une exemption pour son enfant relativement au contenu sur la théorie des genres enseignés à l'école en invoquant une atteinte à sa liberté de religion et à celle de son enfant? Comment concilier les droits et libertés fondamentales protégés par les chartes avec la laïcité, une valeur fondamentale de notre système scolaire? Demande la juge Hélène Yannakis dans une décision rendue le mercredi 11 décembre 2024. Ce sont là des questions à n'en point douter intéressantes, mais des questions dont le tribunal n'est pas saisi, ajoute la juge, qui a accueilli la demande en irrecevabilité effectuée par le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, CSSMB, dans ce dossier. Identité de genre. C'est dans une salle d'audience remplie de parents sympathisants au Palais de justice de Montréal qu'un père de famille s'est présenté à la mi-novembre 2024 devant la juge de la Cour supérieure. L'homme de confession musulmane avait déposé un pourvoi en contrôle judiciaire contre le CSSMB pour contester la décision de la direction d'une de ses écoles de refuser, le 21 septembre 2023, sa demande d'exemption à un cours sur l'identité de genre que sa fille devait recevoir à l'hiver 2024, alors qu'elle était en sixième année du primaire. Le devoir a décidé de conserver l'anonymat du père pour ne pas causer un préjudice à l'enfant. Le demandeur a évoqué une atteinte à sa liberté de religion et à celle de sa fille, indiquant que le contenu de ce cours s'inscrit en faux contre la religion musulmane, indique le jugement d'une vingtaine de pages. Devant le refus de l'école de sa fille d'acquiescer à sa demande d'exemption pour une partie des contenus en éducation à la sexualité, le demandeur s'est tourné vers le protecteur régional de l'élève qui a conclu que le refus de la demande d'exemption était justifié et que l'école a pris des mesures pour assurer le confort psychologique de l'enfant. Dans les faits, cependant, l'enfant n'a pas eu à suivre l'activité intitulée « Identité, rôle, stéréotypes sexuels et normes sociales » qui était visée par cette demande d'exemption, puisque la directrice d'école a permis au père de famille de savoir quand celle-ci serait offerte, afin qu'il puisse en absenter sa fille. Cette dernière poursuit d'ailleurs aujourd'hui son parcours scolaire dans une école secondaire qui n'est pas concernée par ce recours judiciaire. Délai déraisonnable. La juge constate d'autre part que 186 jours ont défilé entre le moment du refus de l'école primaire d'acquiescer à cette demande d'exemption et celui où ce recours en cour supérieure a été déclenché, le 25 mars 2024. Un délai déraisonnable, selon la juge, puisque celui-ci ne doit pas, en règle générale, dépasser 30 jours. Il n'y a aucune allégation qui expliquerait une impossibilité d'agir ou une autre circonstance qui viendrait excuser son délai à signifier son pourvoi dans un délai raisonnable, écrit la juge. Le recours judiciaire du demandeur a d'autre part été rendu théorique par des changements législatifs qui ont pour effet d'inclure dans le régime pédagogique les contenus d'éducation à la sexualité qui font partie du cours Culture et citoyenneté québécoise, CCQ, depuis le 1er juillet 2024. Aucune procédure administrative d'exemption n'est prévue pour le cours CCQ, dans le cadre duquel est notamment enseignée l'identité de genre. Une personne qui allègue une atteinte à ses croyances religieuses peut néanmoins présenter une demande d'accommodement pour un motif religieux en vertu de la loi sur la neutralité religieuse de l'État, rappelle la juge. Il apparaît que dans le cadre d'une demande d'accommodement raisonnable, le centre de service scolaire visé doit notamment s'assurer que les régimes pédagogiques établis par le gouvernement, ainsi que la mission de l'école d'instruire et de socialiser les élèves dans le respect du principe d'égalité, ne soient pas compromis, alors que ces exigences étaient totalement absentes du cadre d'analyse d'une demande d'exemption, indique la décision de la Cour supérieure. La question de la validité d'une demande d'exemption, comme présentée par le demandeur, devient ainsi périmée sous ce nouveau contexte législatif, conclut la juge Eleni Yannakis. Un recours abusif. Le CSSMB a d'ailleurs convaincu le tribunal que le comportement du demandeur dans cette affaire a été empreint d'abus et constitue un acharnement à l'endroit du centre de service scolaire. Le père de famille a en effet multiplié les plaintes et les recours judiciaires contre l'organisation dans les dernières années et n'a eu gain de cause dans aucun de ces dossiers. Or, le demandeur ne peut se réfugier derrière son désir de protéger son enfant et l'utiliser comme un bouclier pour justifier son comportement, écrit la juge. Cette dernière a ainsi recommandé au demandeur de s'attarder, dans ses actes futurs, à l'adage selon lequel il faut choisir ses batailles. Au moment où ces lignes étaient écrites, l'avocat du plaignant, Frédéric Quintal, n'avait pu confirmer au devoir si son client entend ou non contester cette décision judiciaire. Le ministère de l'Éducation a pour sa part entamé le mois dernier des vérifications à la suite d'un reportage du devoir sur ce recours judiciaire pour savoir s'il est possible, actuellement, de faire une demande d'exemption à un contenu d'éducation à la sexualité inclus au programme CCQ ou si cette demande peut seulement s'appliquer à des contenus offerts à l'extérieur de ce programme. Ces vérifications seraient toujours en cours. C'était « La Cour supérieure rejette une demande d'exemption à des contenus reliés à l'identité de genre », un texte de Zacharie Goudreau, paru le 12 décembre 2024 dans Le Devoir.
Une solution pour l'enfant terrible du bac bleu, un texte de Sarah Champagne, paru le 16 décembre 2024 dans la presse. En janvier 2024, la réforme du bac bleu promet d'augmenter la quantité de matière à recycler. Le défi s'annonce de taille pour parvenir à recycler l'enfant terrible des centres de tri, le polystyrène. Jusqu'à présent, ce fameux plastique numéro 6, utilisé pour fabriquer barquettes de viande, pots de yogourt, couvercles de café et mousse d'emballage, est souvent détourné vers l'enfouissement. Il y a plusieurs solutions pour recycler le polystyrène. Le remouler, en mobilier urbain, en fait partie. Il existe également une recette moins toxique pour transformer ce polymère à l'infini. Le brevet est bien de chez nous, mais puisque les municipalités régionales de comté, MRC, doivent se serrer la ceinture, son déploiement, qui nécessite des investissements colossaux, paraît peu probable. On doit dissoudre le plastique comme du sucre dans du café. Mais au lieu du café, il s'agit d'une huile essentielle de cimène, un type de solvant présent naturellement dans certaines plantes, dont le cumin. À la fin du processus, il en ressort des billes de plastique, une sorte de résine, qu'on peut remouler sans fin. Loin du simple déchiquetage. Lundi matin de novembre 2024, rue de l'Innovation, dans le secteur industriel de l'arrondissement d'Anjou, à Montréal. On gèle dans l'usine laboratoire de polystyvère. La responsable? La climatisation. Virginie Bussière, vice-présidente de l'entreprise émergente, se prépare à prendre l'avion pour l'Europe. Des rencontres stratégiques l'attendent de l'autre côté de l'Atlantique dans l'espoir d'accélérer la croissance de polystyvère. Actuellement, l'usine traite 1 000 tonnes de plastique par année. Elle vise 11 000 tonnes dans une future usine évaluée à plus de 30 millions. Madame Bussière explique que l'entreprise va plus loin que le simple déchiquetage du plastique. Elle arrive à recycler tous les types de polystyrène, expansés, extrudés ou injectés. Le procédé permet d'éliminer la quasi-totalité des contaminants présents dans ce plastique fabriqué à base d'énergie fossile. Pour bien illustrer notre innovation en recyclage par dissolution, j'aime utiliser l'image d'un gros gâteau. C'est un peu comme si on avait réussi à mettre au point un procédé permettant de retirer d'un gâteau cuit chacun des ingrédients, les œufs, le lait ou la farine. Ça paraît impossible, mais c'est possible. C'est ce qu'on fait avec la styromousse. On parvient à retirer tous les contaminants pour obtenir des billes noires, blanches ou beiges à remouler. Le procédé chimique en circuit fermé génère de 80 à 90 % moins de gaz à effet de serre que les autres façons de recycler le plastique numéro 6, selon polystyvère. Dans l'usine, on dénote une odeur rappelant celle du vinaigre balsamique avec un brin d'eucalyptus. Une immense cuve en forme d'entonnoir trône au milieu des lieux. C'est la première étape, la dissolution. Des réservoirs permettent ensuite de purifier en retirant étiquettes, fragments de bois, métal, pigments de couleur. Les deux étapes suivantes consistent à tremper le plastique dans un autre solvant pour que la matière soit transformée en pâte, en longs filaments, puis en granules. Virginie Bussière explique. Un peu à l'image des bouteilles d'eau recyclées pour fabriquer certains vêtements, peut-être qu'un jour, on verra la mention « fabriquée à partir de polystyrène recyclé ». Ce qu'on réalise ici, c'est vraiment un procédé de plastique à plastique. L'écocentre. Pour administrer la collecte sélective, le gouvernement a mandaté Éco-Entreprise Québec, EEQ. L'organisme doit gérer la liste unique vers le bac bleu, qui entrera en vigueur à partir de janvier 2025, incluant le polystyrène. Chef des affaires publiques, Marie-Claude Rivet confirme que 3 types de contenants et d'emballages en plastique perturbent particulièrement la collecte sélective et doivent être dirigés ailleurs que dans le bac de récupération. L'écocentre s'avère une option. En 2025, dit-elle, la première phase d'un projet pilote sera déployée avec les centres de récupération municipaux pour déterminer comment stocker, recycler et implanter un système de traçabilité du polystyrène. Les emballages en styromousse de meubles et de téléviseurs sont spécialement visés. EEQ espère pouvoir offrir un service de collecte partout d'ici 2027. Est-ce que la collecte sera effectuée de porte à porte? L'organisme n'en fait pas mention. Partout dans le monde, des campagnes ont lieu pour éliminer le plastique à usage unique, pour protéger les plages, les océans. Dans ce contexte, la solution de polystyrène soulève certaines questions. Est-ce qu'on ne fait pas que multiplier la quantité de polystyrène produite? Directeur régional, section plastique de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie, Jean-François Fortier, n'hésite pas à vanter les mérites de l'instauration d'une boucle de recyclage du polystyrène. Selon lui, le Québec doit mettre en place plus d'incitatifs pour encourager les grands fabricants à investir davantage dans les technologies innovantes du recyclage des plastiques. À l'association, ce qu'on préconise, ce n'est pas la fin de l'utilisation du plastique. C'est sa réutilisation intelligente et durable pour optimiser l'économie circulaire, souligne M. Fortier. Le plastique est partout autour de nous. La demande est forte, surtout chez les entreprises. On préconise son recyclage. Découvrez la modernisation de la collecte sélective au Québec. En savoir plus, source Recycle Québec, étude de caractérisation à l'élimination, 471 000 tonnes de plastique, tous types confondus, qui ont été éliminées en provenance des collectes municipales, des industries, commerces et institutions en 2019-2020. Environ 23 000 tonnes de plastique numéro 6 ont été jetées à l'enfouissement durant cette même période, ce qui représente 5 % de l'ensemble du plastique éliminé dans la province. C'était Une solution pour l'enfant terrible du bac bleu, un texte de Sarah Champagne, paru le 16 décembre 2024 dans la presse.